9h-11h, La vie en bleu sur France Bleu Auxerre.
La vie en bleu, nous sommes vendredi 13. Nous parlons superstition forcément. Aujourd'hui, la vie en bleu, c'est votre instant discussion, découverte, apprentissage également. Et pour aborder ce sujet sur les superstitions, nous allons prendre deux chemins différents. Sur le premier, nous serons guidés par Jean-Luc Dauphin, romancier, linguiste, historien, au fait des croyances de notre département, des superstitions qui nous habitent, qui nous ont habités. Les superstitions, leur évolution, leurs origines, on découvrira tout ça en sa compagnie et par le biais de ses différents écrits également. Et pour une approche un peu moins poétique mais plus prosaïque, cette fois nous serons avec Isabelle Césari. Elle sera avec nous tout à l'heure. Isabelle qui travaille pour la Française des Jeux. Elle viendra nous raconter comment ça se passe quand on gagne beaucoup d'argent. Il y a eu un vainqueur il y a quelques semaines maintenant dans notre département qui a remporté le gros lot, 42 millions d'euros. Elle travaille au service qui prend en charge les grands gagnants. Elle viendra nous raconter un peu tout ce qui se passe, nous faire rêver aussi en imaginant pourquoi pas nous aussi remporter aujourd'hui un grand gain ou dans les semaines qui arrivent. La superstition est donc au cœur de ce moment que nous allons passer ensemble. C'est le dossier du jour et si vous voulez nous en parler, témoigner, nous raconter vos habitudes, ce que vous faites, ces petites choses dont vous ne pouvez pas vous passer pour vous sentir bien, vous n'hésitez surtout pas. 03 86 52 23 23. Nous aurons également Bruno Blanza qui viendra nous parler des siennes et si vous voulez faire de même, nous vous attendons.
France Bleu Auxerre.
Jean-Luc Dauphin, bonjour.
Eh bien, bonjour à vous.
Jean-Luc, vous êtes originaire de Villeneuve-sur-Yonne, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous voilà. Y vivez. Vous avez écrit plusieurs romans.
Entre autres.
On va commencer par là. Oui,
historique, absolument.
Exactement, il y a beaucoup de choses. Mais ces romans, ils prenaient racine dans notre histoire et notamment, pour certains, dans les superstitions de notre département. Est-ce qu'il y a une superstition qui est particulièrement représentative de notre patrimoine iconais?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait de superstitions propres à Lyon. On sait que dans les terroirs de Lyon, par exemple au XIXe siècle, dans leur grande diversité, puisqu'ils ont appartenu à des provinces différentes historiquement, on a un morceau de Bourgogne, un morceau de Champagne, un morceau d'Île-de-France, avec le Gâtinais, nous touchons presque au Pays de Loire. Eh bien, il y a eu une extrême variété de superstitions, mais qui toutes participent un petit peu d'un même esprit. Et on retrouve bon quelques fondamentaux généraux par rapport aux animaux. La crainte des chats noirs, mais la crainte aussi d'un certain nombre d'oiseaux, le chant de la chouette, la pie, le corbeau, qui était un petit peu désigné. Mais de la même façon, au XIXe siècle, il pouvait être tout aussi inquiétant de rencontrer un lièvre, une belette qui traversait le chemin devant vous qu'un chat noir. Donc, on trouve à travers notamment les documents qui ont été réunis à la fin du XIXe siècle par Charles Moiset, ça a été publié à l'époque dans le bulletin de la Société des sciences de Lyon, on trouve toute une collecte de ces superstitions. Alors, on peut s'interroger sur leur origine, ce qui à la fois les réunit, les rassemble, et puis bon, ce qui en fait la diversité. Vous savez, ça remonte très loin, cette notion de superstition. Déjà, les Latins opposaient deux mots qui étaient religio, la religion, mais une religion officielle, codée et très organisée. Et puis de l'autre côté, la superstition qui, elle, relevait d'une démarche uniquement personnelle, qui était une sorte de tentative d'établir par l'individu...
Une explication de choses voilà, un peu incompréhensibles.
De lien personnel avec une force supérieure, parce qu'il y a le super, dans la superstition. Et ça, c'est un fondamental qu'on retrouve de toute façon dans le rapport que, notamment dans nos pays, l'Église chrétienne, l'Église catholique, à partir du XVIe siècle, a pu entretenir avec les démarches superstitieuses, alors qu'on a souvent assimilé aux religions pré-chrétiennes, à des survivances. Alors, ça renvoie surtout à des fondamentaux de l'âme humaine et, je dirais, tout simplement à une pensée magique.
Il y a des superstitions de tout temps, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
De tout temps et ça relève au départ de la pensée magique. Alors c'est vrai que dans notre civilisation, on a ensuite, j'allais dire entre guillemets, christianisé la superstition. Non pas que l'Église chrétienne la prenne à son compte, ce qui n'était pas du tout le cas et elle l'a sans cesse condamné, mais pour, je dirais, rendre présentable des choses, eh bien il va y avoir, je dirais, un habillage chrétien. C'est le cas notamment du vendredi 13 avec ce chiffre 13. Alors ça renvoie à la fois au vendredi qui est le vendredi saint, qui est le moment où le Christ va être livré par les apôtres et au terme de la scène, de ce dernier repas où ils ont été très à table. Et
c'est de là que vient le mauvais chiffre.
On va habiller ce mauvais chiffre, tout à fait. Mais il y a plein d'autres superstitions qui vont être rattachées à des pratiques chrétiennes. Par exemple, en puisait. Qu'est-ce qu'on utilisait comme paratonnerre? Ben oui, on avait peur du tonnerre, de la foudre, avec ses maisons en toit de chaume dans nos villages, un incendie qui se propage, une maison frappée par foudre, l'incendie se propageait à tout un quartier, à tout un village. On voit encore à la fin du 19e siècle une commune comme Brinant-sur-Armançon qui est détruite aux deux tiers par le feu du ciel, si je puis dire. Eh bien, en puisait. Le plus sûr des paratonnerres, c'était le pied d'aubépine. Alors pourquoi ? Bon, on mettait de l'aubépine devant la maison, on accrochait de l'aubépine après la façade pour protéger la maison du feu du ciel, de la foudre. Eh bien, cette propriété attribuée à l'aubépine était basée sur la croyance qu'on avait dans nos campagnes que la couronne du Christ était faite de branches de cet arbuste. Voilà un exemple tout à fait curieux d'une pratique, alors bon, déjà historiquement complètement fausse, bien sûr, il n'y avait pas d'aubépine en terre sainte, et on imagine que la couronne du Christ, si elle a été faite de branchages épineux, n'était pas faite d'aubépine, mais c'est une façon d'habiller les choses. De la même façon, quand on demande aux habitants, quand il y a effectivement un très grave orage, de se réunir dans l'église, à la fois pour implorer la clémence divine, certes, on va prier, mais aussi pour se mettre à l'abri sous le seul toit, parfois, de tuiles, le seul toit solide du village, alors que pour leur pauvre maison, c'était peut-être beaucoup plus risqué, on va sonner les cloches. Eh bien, les habitants de beaucoup de nos bourgs, et on trouve la tradition vraiment un petit peu partout, croient que faire sonner les cloches écarte l'orage.
Ça s'est habillé comme ça au fur et à mesure.
Et ça va se dire comme cela. Et au premier coup de cloche, ça y est, on va commencer à écarter l'orage, à éloigner l'orage. Qu'il aille sur le village d'à côté, c'est très bien.
Oui, voilà. S'il n'est pas chez nous, on s'en sort mieux. Jean-Luc Dauphin, nous continuons de discuter avec vous de ces superstitions dans notre patrimoine, justement. Nous avons déjà appris quelques petites choses. On parlera aussi, finalement, des histoires que vous avez racontées et comment vous vous êtes documenté. Pareil, vous avez déjà commencé à nous en parler un petit peu. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Et puis, si vous voulez, vous, nous parler de vos superstitions, parce que on parle de celles de notre passé, mais il y en a toujours dans le présent. D'ailleurs, 13 à table, chiffre 13, c'est encore quelque chose de très présent. Vous n'hésitez surtout pas, 03 86 52 23 23. Le dossier du jour dans La Vie en Bleu, ce sont ces superstitions. Un vendredi 13, forcément, on ne pouvait pas passer à côté.
Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Auxerre.
La vie en bleu dans La Vie en Bleu, nous discutons superstition ce vendredi 13. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Dauphin qui nous aiguille dans les racines historiques des superstitions que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas forcément. Jean-Luc, vous nous avez dit tout à l'heure qu'à une époque, croiser un animal pouvait être synonyme de mauvais sort, entre guillemets. Quel que soit l'animal, on imagine le chat noir, mais vous avez dit un lièvre aussi. C'était quoi exactement cette superstition ?
Ah, il y a plein de superstitions, notamment liées au lièvre. Par exemple, dans l'Auxerrois, Chevannes, par exemple, il y avait une apparition tout à fait redoutable qui était celle du lièvre blanc. C'était un fantôme qui avait pris pour domaine les prés du rue de Beauche. Et c'était une des figures du diable. Voilà, une très curieuse croyance. Alors, on trouve ailleurs d'autres légendes de lièvres comme ça qui tiennent tête à des chasseurs. Alors, ça fait partie, là encore, de figures un petit peu mythiques qui restaient présentes dans l'esprit des campagnes, de même que les croyances au loup-garou qui existaient en puisait, plus encore en forêt d'Hôte, où on l'appelle le voir-loup, était quelque chose d'encore très, très présent jusqu'au 19e siècle. Où ces légendes ont été recueillies, ont commencé à être notées par des chercheurs, par des curieux qui avaient envie de comprendre, de saisir un petit peu de cette mentalité un peu magique qui avait longtemps prédominé dans les campagnes et subsisté.
Et le voir-loup, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que j'ai l'impression que c'est une créature fantastique, assez significative pour le pays d'Hôte.
Alors, c'était particulièrement présent, c'est vrai, en Pays d'Hôte, que ce soit du côté Iconnais ou du côté Aubois. Et alors, voir-loup, c'est une déformation de gar-loup qui renvoie à l'idée de loup-garou, le loup dont on doit se garer, dont il faut se protéger, qui fait peur. C'est la faculté donnée à un homme qui a passé, un pacte avec le diable, de se transformer en une bête. Alors certaines lunes, on ira les nuits de pleine lune, peut-être, ça tombe bien, c'est pas la pleine lune en ce moment, donc il n'y a rien à craindre, qui s'enduisait le corps d'une espèce de mélange, d'amalgame, etc., qui facilitait sa transformation, et il devenait absolument invincible à partir du moment où il avait connu cette transformation. Alors, il y a tout un ensemble légendaire que l'on trouve encore compté au XIXe siècle, mais qui a des racines très très lointaines, qui sont liées, ben, je dirais tout simplement aux crânes de ces communautés villageoises, au fait qu'il y a ces animaux, ces loups insaisissables, vous savez, comme au 18e siècle, il y aura ce mythe de la bête du Gévaudan qui va défrayer la chronique dans tout le royaume. Eh bien, il y a une volonté, bon, en même temps, de donner un nom, de donner une figure ou une explication.
Ah, je veux dire rationnel
à ce qui effraie, à ce qui inquiète. Quand on nomme les choses, elles font déjà un petit peu moins peur. Alors ça a été un des ressorts, notamment d'un de mes récits romanesques dont vous parliez tout à l'heure, le qui s'appelle Le Diable à Frisier, et qui, à partir d'une anecdote, est fondée d'histoires de sorcellerie qui existent encore en Pays d'Hôte dans les années 1780, c'est-à-dire à la veille de la Révolution. Le ressort du récit est la confrontation entre un jeune clerc de procureur qui participe, on dira, à l'esprit des Lumières, qui justement veut rejeter la
toute
superstition,
toute cette idée superstitieuse,
rejeter les préjugés, et qui rencontre dans la population de Lot, on est là entre Cerisier, Vaudeur, les croyances traditionnelles. Alors il va voir leur force, mais il va voir en même temps combien ces communautés et ceux qui vivent un peu en marge, comme les charbonniers de la forêt d'Hôte, peuvent faire face aux choses et en même temps réagir finalement sainement. Et c'est un petit peu le ressort du récit. Tout ça participe effectivement d'un esprit magique, mais qui n'est pas éteint aujourd'hui. On a encore aujourd'hui des pratiques. Vous parliez tout à l'heure du 13 à table. On évite d'être 13 à table, combien de fois l'ai-je entendu. Mais ne pas repiquer le persil, par exemple. Ah, c'est très mauvais si on repique du persil. Moi, j'ai toujours entendu ça. Alors, peut-être tout simplement parce qu'il ne reprendra pas.
Et c'est ça qui a fait qu'on a pensé que ça portait malheur.
Et ça porte malheur. Mais on pratiquait toutes sortes dans les campagnes de démarches. Par exemple, pour semer les graines, pour que ça prenne vraiment bien, eh bien, il faut, tradition du Gâtinais, les semer le vendredi saint, mais avant le lever du soleil, à cette heure-là seulement, parce qu'une fois que le soleil a franchi l'horizon, il faut surtout rien faire le vendredi saint. Eh bien, si les fermières voulaient que leurs poules soient bonnes pondeuses, eh bien, il fallait leur faire manger un morceau de crêpe le jour de la Chandeleur.
Oui, plein de croyances comme ça. On va continuer d'en découvrir, Jean-Luc, ensemble. D'autant plus qu'on a Claude qui va nous en parler dans quelques instants. Il a, lui, une superstition qu'il partagera avec nous. Et puis, on reviendra aussi sur ce 19e siècle. J'ai l'impression que ça a été un tournant dans cette évolution des superstitions. On en parle dans quelques instants. Dans La Vie en Bleu, vous pouvez bien sûr continuer de discuter avec nous. 03 86 52 23 23 pour venir témoigner comme Claude va le faire dans quelques minutes et nous raconter vos superstitions.
France Bleu Auxerre.
Dans La Vie en Bleu, le dossier du jour en ce vendredi 13, ce sont bien sûr les superstitions, vos superstitions. Nous parlons des superstitions historiques de notre département, mais dans l'absolu de notre patrimoine avec Jean-Luc Dauphin. Mais nous avons également Claude qui nous appelle de Joigny. Bonjour Claude.
Oui, bonjour à tous les deux. Effectivement, j'ai entre les mains d'ailleurs ce dont je devais vous parler. C'est quelque chose que j'ai acquis lors de ma prime jeunesse, enfin du moins du temps de mon adolescence.
Vous avez un porte-bonheur.
Oui, ouais, en quelque sorte, c'est ça. Ça s'appelle la pierre du Nord. Peut-être que ça va vous dire quelque chose.
Non, ça ne me parle pas. Expliquez-moi.
Je peux vous dire, oui, j'ai 81 ans, j'ai entre les mains, là. Alors que je l'ai acquis, je dois avoir moins de 18 ans. Alors cette pierre, elle est censée me donner beaucoup de magnétisme, me donner succès, me protéger, si vous voulez, c'est une pierre soi-disant qui vient d'un endroit où il y a beaucoup de magnétisme. Et je l'ai en permanence sur moi, en ce moment je l'ai sous mes yeux. C'est une médaille enfin, qui est censée être plaquée or, ça j'y crois pas beaucoup. Mais disons qu'il y a une petite pierre au milieu, petite pierre noire. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je la regarde.
Ça vous rassure, ça vous permet d'être un peu plus serein.
C'est mon grillé, quoi. Quelles que soient les circonstances, je l'ai sur moi et j'ai l'impression que...
Que tout va bien se passer.
De bien se passer. Elle accompagne mon Saint-Christophe, bien sûr, sur la voiture, parce que ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup ont aussi. C'est,
exactement.
Je ne sais pas si c'est une superstition ou quoi, là, Saint-Christophe, mais enfin... Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Mais enfin, cette pierre-là, je vous assure que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Et puis, je sais qu'il m'arrive rien grâce à ça.
Eh bien, écoutez, Claude, merci de votre témoignage.
Voilà.
À bientôt.
Donc, à bientôt, cette bonne journée.
Jean-Luc Dauphin, ces attachements aux objets, c'est aussi quelque chose qui existe depuis toujours ?
Tout à fait. Alors ça fait partie des constantes. Hein. Ça peut être la patte de lapin. La patte de lapin qu'on garde sur soi, qui porte bonheur. J'ai connu ça. Par exemple, au 19e siècle, puisque nous en parlions tout à l'heure, c'était l'époque du tirage au sort pour la conscription. Tout le monde ne faisait pas son service militaire, comme on verra plus tard. Et il y avait un tirage au sort, et si on tirait un bon numéro, ben on n'aurait pas à le faire. Si on tirait, entre guillemets, le mauvais numéro, ben c'était 5 ans, ensuite 3 ans, mais longtemps 5 ans de conscription, où il fallait effectivement porter les armes, ou alors acheter, payer un remplaçant. Eh bien, pour ça, il y avait des pratiques dont j'avais trouvé la trace à travers des témoignages encore dans les années 70, mais qui étaient portées par des grands-parents et qui avaient été comptées dans la famille. Et notamment, il fallait récupérer une mue de serpent, une peau de serpent que l'on portait sur soi au moment du tirage pour tirer un bon numéro. Mais j'ai retrouvé, dans les années 80, dans le portefeuille d'un vieux Dimontois, le village de Dimont, vous voyez, dans le 19e, eh bien, une de ces mues de serpent qu'il avait gardée, qu'il avait préservé. Alors ça, vous voyez, c'est ce type de croyance qui est tout à fait classique, l'objet qui va vous protéger, qu'on garde sur soi. Alors ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être tout à fait christianisé, la médaille de la chapelle miraculeuse, par exemple.
C'est très personnel, en fait, ces superstitions-là.
Et la superstition, justement, par opposition à la religion, et on revient au fondamental, je dirais, des mots qui viennent du latin, par opposition à la religion, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas la participation à la religion dont le rôle est de relier et de partager, mais au contraire, c'est une démarche personnelle et une croyance intime. Alors ensuite, ça prend toutes sortes d'autres formes. On va revenir aux œufs. Ces œufs, il y a plein de traditions, qui les lient à cela. Je parlais de crêpes de chandeleur tout à l'heure, mais par exemple... et c'était notamment le cas en Puisaye, pour écarter le renard qui venait manger les poules, eh bien, il y avait une tradition qui était de préparer une omelette de 12 œufs. Alors, vous voyez encore la symbolique du chiffre, une omelette de 12 œufs, dont on allait faire 4 parts. On faisait un signe de croix sur chacune de ces parts et on en plaçait une à chaque angle du terrain qu'on voulait préserver, peut-être où il y avait effectivement le poulailler, le juchoir des poules, et on jetait à chaque angle un des morceaux d'omelette en criant 3 fois « Renard, v'là ta part, prends-la et n'y reviens pas ». Comme si, en lui donnant un petit peu des œufs des poules, on allait préserver les poules. Alors, il y a toutes sortes de croyances de ce type, et avec des formules magiques. Pour la Puisaye, Marcel Poulet avait recueilli, au début des années 80, tout un ensemble de formules, de recettes magiques de Puisaye, dans un ouvrage qui est aujourd'hui épuisé, mais qui est extrêmement intéressant, parce que c'était vraiment la collecte, là encore, de ce qui subsistait dans les mémoires. Et il y a, parmi ces recettes magiques, par exemple, des formules pour gagner au jeu. Ça nous ramène près d'un sujet que vous allez aborder.
Et justement, ça tombe bien que vous en parliez. Si vous en avez une, on est preneur.
Avec des jonchées de fougères, il fallait dessiner quelques lettres sur le sol et ça allait vous donner une chance au jeu. C'est un exemple tout à fait curieux que j'ai trouvé dans le petit ouvrage de Marcel Poulet, qui est l'historien de cette Puisaye et qui la connaît infiniment bien.
Jean-Luc Dauphin, justement, dans quelques instants, nous allons discuter du jeu aujourd'hui. Ce sera en compagnie de notre prochaine invitée, Isabelle Césari. Vous restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour aborder aussi les superstitions d'aujourd'hui. Et puis, comment ça se passe quand on gagne le gros lot? Restez bien avec nous et continuez de nous appeler si vous voulez témoigner, nous raconter vos petites habitudes, vos superstitions. 03 86 52 23 23, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Auxerre.
France Bleu Auxerre.
Dans la vie en bleu, en ce vendredi 13, nous discutons superstition. Nous en discutons avec Jean-Luc Dauphin qui est avec nous, notre historien linguiste spécialiste des superstitions notamment, et qui nous a beaucoup aiguillé dans ce que l'on peut vivre encore aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, des superstitions, il y en a pas mal pour essayer de remporter le gros lot dans les différents jeux de hasard. Pour en discuter avec nous, Isabelle Césari est là. Elle travaille au service des grands gagnants de la Française des Jeux. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, donc, nous parlons de tout ça. Et récemment, dans Lyon, en plus, un Iconet a remporté le gros lot à l'euro-million, 44 millions d'euros. Quand on gagne, comment est-ce que ça se passe avec la Française des Jeux?
Alors, quand on gagne, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe très bien. Donc,
ah bah là, oui, donc, c'est sûr qu'on est plutôt pas mal, effectivement.
Voilà, donc le gagnant, en fait, nous contacte. Donc nous procédons à des vérifications d'usage, évidemment, pour nous assurer qu'il s'agit bien de notre mm-hmm. gagnant. Ensuite, donc, nous lui donnons un rendez-vous pour le paiement. Et la première rencontre, donc, c'est le moment où on fait sa connaissance.
Le gagnant vient, j'imagine, vous voir à Paris ou...
Absolument. Donc, en fait, nous l'invitons dans un très bon restaurant. Nous le longeons dans un hôtel. Et donc, le premier dîner est une manière pour nous donc, de prendre contact et de faire sa connaissance et puis de lui prodiguer quelques bons réflexes à adopter dans les premiers temps, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan humain.
C'est-à-dire, quels sont les bons réflexes à adopter?
Alors, sur le plan financier, c'est des conseils de bon sens, en fait, que nous leur donnons. C'est de déposer le chèque au plus tôt, de faire un premier placement d'attente qui leur permet en fait de prendre le temps, parce que c'est vraiment le premier conseil qu'on donne, c'est de prendre son temps, de ne pas précipiter aucune décision. Donc ce placement d'attente leur permet vraiment voilà de se poser et de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire avec cet argent. On leur dit aussi de se méfier des propositions qui pourraient paraître trop alléchantes. Enfin voilà, ce sont vraiment des conseils de bon sens. Et de même sur le plan humain, voilà, on essaye de leur expliquer en fait la manière de d'annoncer cette nouvelle à son entourage. On leur explique voilà les réactions qu'ils pourront susciter, et puis voilà de glisser tout doucement en fait du secret dans les premiers temps vers le jardin secret progressivement. Donc ce sont vraiment des conseils de bon sens. On les entoure, on les accompagne, et ça c'est juste voilà au moment où on leur remet le chèque lors de la première rencontre. Et puis par la suite, durant une période de 5 ans, on leur propose des ateliers sur toujours les deux axes financiers et humains. Et là, ce sont donc des ateliers où on a plus de 15 par an qui ont lieu dans toute la France, hein, qui sont facultatifs, hein, bien entendu, entièrement gratuits à leur service. Et donc, qui est animé par des experts qui, là toujours encore, donnent des conseils de bon sens encore pour qu'ils puissent, eux, en fait, disposer des informations et des clés pour faire des choix éclairés et voilà, et vivre ce gain de la meilleure manière qui soit.
Mais on les accompagne combien de temps? 5 ans justement, et après,
pendant 5 ans, ils reçoivent nos invitations et voilà. Ensuite, c'est selon leur choix en fait. S'ils souhaitent continuer à bénéficier de cet accompagnement, on continue à les accompagner. C'est eux qui décident en fait.
À partir de quelle somme est-ce qu'on est considéré comme un grand gagnant et qu'on est pris en charge par la Française des Jeux?
Alors, à partir de 1 million d'euros, donc on a plus de 200 gagnants à partir d'un million d'euros par an. Et c'est à partir donc de ce montant que nous proposons tout notre programme d'accompagnement.
Aujourd'hui, on se vendredi 13, si je ne me trompe pas, la cagnotte est de 13 millions?
Absolument, 13 millions d'euros ce soir, donc pour le super loto du vendredi 13, absolument.
Et vous avez les chiffres qu'il faut jouer pour gagner ou pas?
Ah bah écoutez, non, désolé.
Bon,
je vous engage à faire une grille.
Ah bah oui, bah écoutez,
comme 6 millions de Français aujourd'hui.
Gauthier Pajonat vient de me rejoindre. Gauthier, vous avez fait une grille vous aujourd'hui?
Non, mais j'ai peut-être un petit cadeau pour vous. Allez, ça sera après le flash de 10h.
D'accord, voilà. Très bien.
Et j'entendais madame, c'est peut-être bien la grille gagnante, j'ai l'impression. Il a été validé chez Anne-Laure à Gron, et je sais qu'elle porte bonheur.
Très bien.
Je vous le souhaite et peut-être que nous parlerons demain dans ces cas-là.
Eh bien écoutez, je vous passe c'est bien, j'ai votre numéro comme ça, Isabelle. Ça nous fera gagner du temps. Isabelle Césari, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Jean-Luc Dauphin, pour continuer de discuter encore un petit peu avec vous, les superstitions sur les jeux, Bon, là, on parle des jeux assez récents, mais pareil, c'est quelque chose qu'on a toujours eu. Est-ce que vous avez quelques exemples qui vous viennent en tête de choses dans notre patrimoine qui existaient déjà avant et qui peut-être se perpétuent encore aujourd'hui?
J'évoquais tout à l'heure cette pratique poyaudine de dessiner des lettres avec des jonchées de fougères pour se donner de la chance au jeu. Ce n'est pas effectivement ce qui est le plus porté par la tradition, parce que cette pratique du jeu n'est pas en dehors, je dirais, de jeux entre guillemets un peu sportifs, de jeux de boules, etc., mais qui restent qui ne sont pas liés à l'argent, n'était pas très répandu dans les campagnes. Où est-ce que l'on joue de l'argent? C'est en ville, autour d'un billard, autour de pratiques de jeu, mais c'était pas quelque chose qui engageait un argent que les gens n'auraient pas eu d'ailleurs au fond des campagnes.
D'ailleurs, Monsieur Dauphin, on a Étienne qui est avec nous, qui nous appelle de Cudo, qui a une question. Alors, je ne sais pas si on saura y répondre, mais en tout cas, c'est peut-être l'occasion de lancer un nouveau sujet. Étienne, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Alors, vous avez une question sur les chiffres, Étienne.
Oui, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut se fier à la croyance des chiffres?
Et, quand vous dites à la croyance des chiffres, c'est quoi exactement, Étienne?
Par exemple, chacun a un chiffre porte-bonheur. Bon, je vais donner un exemple qui m'est assez...
Qui vous est propre, oui.
On était trois frères et puis malheureusement j'en ai perdu un le 3 septembre 2003 et à chaque fois qu'arrivait une catastrophe, c'était le chiffre 3 qui ressortait.
D'accord.
Et en chiffre bonheur, chiffre 4 qui me suivait, ou un multiple de 4.
Jean-Luc, est-ce que cet attachement aux chiffres, il est présent dans les... On en a parlé avec le vendredi 13, mais pareil, est-ce que
c'est... Alors, l'attachement aux chiffres est toujours présent. Alors bon, ça débouchera sur plein d'autres choses, la numérologie et d'autres pratiques qui sont encore très répandues aujourd'hui. Mais là encore, on est, et le témoignage d'Étienne le montre bien, on est dans une démarche très personnelle. Chacun va dire effectivement, ce chiffre-là a marqué ma vie. Ah tiens, je suis né à un 11, je me suis marié à un 11, etc. Et on va rencontrer des gens qui disent, ah ben ce chiffre-là me marque. Alors, je crois que là encore, ça montre bien combien l'aspect superstition, au-delà des grands éléments partagés un peu par tous, relève vraiment d'une croyance personnelle, je dirais quelque part peut-être d'une expérience personnelle où l'on a ressenti bien que ces chiffres-là vous marquaient. Alors, les esprits forts diront, bien sûr, c'est un hasard. Ben oui, c'est un hasard, mais chacun est libre effectivement peut-être de le lire autrement et d'être
de l'interpréter comme il le désire.
Et c'est l'esprit même de la superstition.
On remercie Étienne et on va continuer de discuter encore avec Patricia. Patricia qui nous appelle de Mallet-le-Grand. Et alors vous allez voir Jean-Luc, elle va revenir Patricia sur un sujet qu'on a un peu abordé, mais qui elle va nous donner un témoignage par rapport à un animal. Patricia, bonjour.
Mathieu, bonjour à toute l'équipe.
Patricia, avec vous, on va parler un peu d'un classique de la superstition, là.
Malheureusement, oui. Je vous appelle justement parce que c'est, entre guillemets, un coup de gueule que je voudrais pousser.
Dites-moi.
Parce que la superstition contre les chats noirs, je ne comprends pas qu'en 2017, chacun croit en ce qu'il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de croire en ce qu'il veut. Mais je ne comprends pas quand même qu'en 2017, là où on nous sort des frigos intelligents, des smartphones et compagnie,
on croit encore que les chats noirs portent malheur.
On est toujours des a priori, oui, sur les chats noirs portent malheur. Pour moi, je veux dire, un chat noir, c'est un chat comme un autre. Il y a juste la couleur de son poil qui change, comme une femme se ferait une teinture, voilà.
Jean-Luc, le chat noir, c'est en lien avec les sorcières, avec le folklore, c'était en lien avec quoi?
Le chat noir va être perçu à un moment donné comme une figure du diable. Alors noir, bon, il représente effectivement un monde sombre, obscur. Alors le choix de la couleur. Le chat, il a été considéré comme une divinité par les Égyptiens. Et puis par contre, dans notre civilisation médiévale, on a tendance à un moment donné, à voir dans ce regard un peu énigmatique du chat
qui nous fixe,
peut-être la présence du malin, donc d'une force diabolique. En même temps, ne nous trompons pas, au fond des campagnes, on aime beaucoup les chats parce qu'ils nous préservent des souris. Et le paysan qui n'a pas envie que les souris grignotent son grain,
plutôt bien
avoir un chat près de chez lui. Mais c'est vrai que bon, cette image du chat noir, curieusement, est restée. Fait partie des superstitions qui, comme le vendredi 13, etc., continuent d'être très vivantes, même si je ne suis pas sûr que c'est été forcément très présent jusqu'au fond des campagnes et d'une façon aussi prégnante. Et je vous disais tout à l'heure, il y a eu plein de superstitions liées à toutes sortes d'animaux. Et puis également donc beaucoup aux oiseaux. Rappelons qu'autrefois, par exemple, à la porte des granges, on clouait des oiseaux, et notamment des chouettes. J'en ai encore vu il y a une trentaine ou une quarantaine d'années dans certaines campagnes. Elles étaient censées protéger la basse-cour. Certains historiens se sont demandé si c'était pas le vestige d'une ancienne croyance qui voulait que l'on garde des ossements d'animaux devant la maison pour la protéger. De fait, quand on fait des travaux, parfois on trouve sous la pierre de seuil des ossements de petits animaux.
En tout cas, aujourd'hui, les animaux, on y fait attention. Patricia, si ça peut vous rassurer, moi j'ai un chat noir et je l'aime beaucoup.
Oui, eh bien, je vous dis bravo, mais par contre, je vais contredire monsieur qui vient de prendre la parole. Sachez que dans les campagnes, et mon vétérinaire pourrait dire que j'ai raison, attester ce que je vais vous dire. Sachez que dans les campagnes, les chats en général, et surtout les chats noirs, sont de plus en mal vus parce qu'ils grattent dans les jardins.
C'est un autre débat qu'on relancera.
Ça confirme ce que je disais à l'instant, c'est que cette généralisation de la, je dirais, du rejet du chat noir est quand même relativement récente dans notre société.
C'est pas quelque chose de. C'est oui, voilà. C'est dans ce que vous disiez, c'est que fut un temps dans les campagnes, on préférait avoir des chats. Maintenant qu'on se modernise, peut-être que étant moins nécessaire.
Ah oui, on se méfie des chats errants.
Oui, effectivement. Jean-Luc Dauphin, on remercie Patricia de son témoignage et on vous enjoint à adopter des chats noirs. C'est très gentil, il n'y a pas de souci. Jean-Luc Dauphin, merci beaucoup. On vous remercie d'avoir été avec nous pour discuter de ces superstitions. On l'a dit, vous êtes romancier aussi. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui se prépare dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Il y en a un qui va sortir probablement vers la fin de l'année, effectivement. Un récit qui se placera là encore un petit peu dans le secteur de Villeneuve-sur-Yonne, entre Villeneuve et Dixmont, sur un lieu qui s'appelle Corvisart, et ça s'intitule Les brumes de Corvisart, et j'essaierai là encore d'explorer un peu les mentalités de la fin du XVIIIe siècle et un certain nombre de pratiques. Le jeu, notamment le jeu de billard, apparaîtra.
Si nous parlons de jeu, Jean-Luc, nous saurons à qui nous adresser, peut-être à bientôt alors.
À très bientôt et bonne journée à vous.
Au revoir.
France Bleu Auxerre. France
Bleu. Dans la vie en bleu, aujourd'hui, nous parlons superstition pour un vendredi 13. Ça paraît logique. Et c'est le plus superstitieux de la station qui est venu ce soir avec nous. Bruno Blanza, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes superstitieux?
Oui. Non, mais je n'ai absolument pas peur de le dire.
C'est quoi vos superstitions?
Mais disons que, alors, on peut me prendre pour un fou, on peut prendre tous les superstitieux pour des fous, mais j'aime bien avoir mes habitudes et souvent avoir les mêmes gestes ou, par exemple, à la radio, je sais que ça vous fait sourire, il y a une porte par laquelle je ne veux jamais rentrer.
Voilà. Ah, c'est de la superstition, ça?
Ça, c'en est une, par exemple.
Blanzin ne veut jamais rentrer par la porte du côté.
Ouais, effectivement.
Toujours penser de l'autre devant. D'accord.
Mais je j'aime bien en fait. Vous savez, j'ai interrogé pas mal de joueurs de la JOCR. On a proposé un reportage qu'on pourra réécouter ce soir dans Studio Foot à partir de 19h45 sur pourquoi il y a ces gris-gris dans le vestiaire.
Oui.
Et en fait, moi, c'est un petit peu la même réflexion que pour eux. C'est-à-dire que quelque part, ça rassure. C'est peut-être bête, mais ça rassure. Voilà. Des fois, ça fait sourire mes camarades, mais je garde une pomme, j'oublie de la manger, je la laisse à côté de mon ordinateur. Si la JIA gagne, je ne veux plus toucher à la pomme. C'est rigolo.
Ça les fait pas sourire très
longtemps.
Non,
parce que quand ce sont des bananes qui sont là depuis une ou deux semaines, effectivement, c'est un peu plus compliqué.
La bonne nouvelle, c'est que pendant longtemps, la JIA n'a pas gagné, donc on n'a pas eu trop de bananes. Mais là, ça y est, c'est reparti. Donc
vous voulez la connaître, la superstition, là?
Allez-y.
Hein? C'est mon ami Thierry Boulan, vous savez, ce charmant jeune homme qui présente les journaux du matin. Il m'a dit, Bruno, après les quatre défaites de suite là, de la JIA qui n'allait pas bien, pourquoi tu ne garderais pas le même caleçon? eh bien, chaque match de la GIA depuis 3 matchs, et ce sera encore le cas ce soir à Brest, je porte le même caleçon. Bien évidemment, je tiens à le signaler, il est passé à la machine à laver entre chaque match.
Oui, parce que vous le portez une fois dans la semaine, finalement, quand il
y a
un match.
Oui, bah comme vous, quelque part.
Bah, moi, je porte toujours le même.
Ah, et voilà.
Et je ne lave pas. Ah, tiens tout seul. Vous allez prendre l'avion tout à l'heure.
Ben oui, on est vendredi 13. On est vendredi 13, mais ça, vous voyez, ça ne me fait absolument rien. Et j'ai interrogé Giroud, c'est pareil, il me dit, moi, les vendredis 13, alors qu'il était superstitieux quand il était entraîneur Giroud, encore aujourd'hui, les vendredis 13, ça ne lui faisait rien. Moi, c'est un petit peu pareil. Très honnêtement, ce jour-là, je m'en moque totalement. Voilà, je passe aussi sous les échelles, tout ça. Enfin, vous voyez.
En portant un chat noir.
Ouais, ça ne me dérange pas.
Avec 12 autres copains.
Ouais, après, on dit les pis aussi, vous savez, si on les voit seuls ou en couple et tout, c'est un peu différent. Tout ça, non, ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que j'ai mes habitudes et ça devient aussi un petit jeu et un petit rituel, voilà. Mais c'est pas bien méchant. Hein.
Et est-ce qu'à la GIA, il y a des superstitions rigolotes dans les joueurs ?
Ben, dans le vestiaire, ce qui est assez rigolo, c'est Michael Tacalfred qui nous est ça, le défenseur et capitaine. C'est pas tabou, mais on en parle peu. Et en fait...
Chacun garde sa superstition pour lui.
Un petit peu, mais par exemple, le défenseur Benjaloud Youssouf nous raconte qu'après la collation, vous savez, le dernier repas avant le match, 2-3 heures avant, eh bien, il prend systématiquement une douche. Ça le rassure, il fait toujours comme ça et c'est un rituel qu'il conserve. Beaucoup de joueurs ces derniers temps, ces dernières années, soit mettent d'abord la chaussette droite ou la chaussure gauche.
Zidane.
Enfin voilà, il y a toujours ces petits trucs là. Et puis il y a l'histoire du caleçon, je vous en ai parlé, mais il y a des joueurs qui portent le même caleçon pendant les matchs pour que ça leur porte chance, bien évidemment. Et voilà.
Jordan portait toujours son caleçon de l'université pendant tous ses matchs.
Vous voyez un basketteur, Raphaël Nadal, vous voyez toutes ces mimiques quand il sert là, quand il est au service, c'est quand même colossal devant sa télé. On envie d'attraper la télé, de se dire « mais il est fou !» Mais dans le sport, c'est impressionnant. Et Dieu sait s'il gagne, cet homme-là, et il est en confiance. Mais non, il a besoin de ça pour se sentir encore plus fort.
Est-ce qu'on fait un pronostic en vendredi 13 pour le match de ce soir ?
Pas forcément.
Non ?
Vous voyez, faire des pronostics, moi, je n'aime pas trop. D'accord. Parce que je trouve que ça porte malchance. Et ça, c'est peut-être un gris-gris aussi.
Mais, vous voyez, la boucle est bouclée. Bruno Blanza, vous allez prendre votre avion ?
Effectivement, je vous dis à tout à l'heure.
Exactement.
19h45 sur France Bleu Auxerre. Brest à GIA, gros match entre le 3e et le 13e, deux équipes vraiment en forme de la Ligue 2.
Peut-être une bonne poursuite ça serait de cette série.
Mais en ce vendredi 13, il va falloir un petit peu de chance quand même pour les Auxerrois parce que Brest, c'est très costaud. Ouais. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a le rendez-vous sur le Facebook, le Facebook Live, effectivement. Ça, ce sera à partir de 19h30, voilà, sur le Facebook de France Bleu Auxerre. Une bonne journée. Hein.
Bon vol et à tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci Mathieu.
France Bleu Auxerre.
Dans la vie en bleu, dans quelques minutes maintenant, nous parlerons de riz en compagnie de Gauthier Pajonat. Bonjour Gauthier, je vous ai pas salué tout à l'heure.
Bonjour Mathieu.
Et puis nous sommes également en compagnie de Carmen qui est avec nous, qui nous vient de Sens. Bonjour Carmen.
Bonjour Mathieu.
Carmen et Gauthier, nous allons discuter cuisine, mais rapidement, je voulais vous présenter aussi un objet que je rattachais un peu, non pas à la superstition, mais à la chance. Vous savez, quand on a son petit porte-bonheur, on n'a pas envie de le perdre.
Mais vous connaissez Carmen, vous le connaissez cet objet, vous?
Oui, Carmen, elle est au fait de cet objet. Alors, je vais le présenter juste avant qu'on en discute. Ça s'appelle le Tibi, c'est d'une société qui s'appelle Ticatag. Et le principe, c'est que vous branchez, c'est comme un porte-clé, vous le mettez sur un objet
d'accord.
que vous avez. Alors, Carmen, vous m'avez dit qu'on vous l'avait offert.
Oui, on me l'a offert.
Et alors, à quelle occasion?
Je suis allée voir la comédie musicale Grease, et organisée par la banque Barclays, elle nous en offrira.
Mais vous ne savez pas encore le faire marcher?
Non, je ne sais pas le faire marcher.
Ça va venir, il y a votre fils qui vient ce soir, il va vous aider, les jeunes ils sont au courant.
Ils sont au fait de ça, ça se branche avec le téléphone effectivement, enfin un smartphone.
Une application.
Complètement, et dessus vous pouvez régler l'objet, soit pour le lier à des objets connectés de votre maison, par exemple vous pouvez vous en servir après pour allumer votre porte de garage ou ce genre de choses, ou alors vous le mettez sur vos clés, quand vous ne retrouvez pas vos clés, sur votre téléphone vous appuyez et ça va sonner. Donc au bruit vous pourrez retrouver vos clés.
D'accord.
Ça fait aussi GPS, vous le mettez sur le sac de vos enfants, quand ils arrivent à l'école vous pouvez regarder sur l'application où ils sont, s'ils sont bien à l'école, etc. Ça vous permet de les suivre. Ça vous laisse sans voix.
Non, mais oui, c'est bien, c'est sécuritaire, on va dire.
Voilà, c'est ça. Il faut pas qu'il y ait de dérive, mais le prix d'un Tibi, c'est 29,90€. Voilà, un produit français, fabriqué en France, développé en France. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner en allant sur la page Facebook de France Bleu Auxerre.
9h-11h. La vie en bleu sur France Bleu Auxerre.
La vie en bleu qui continue jusqu'à 11h pour discuter cuisine, pour saliver en parlant du riz. C'est le produit dont on vous parle aujourd'hui et pour en discuter, il est un peu expert de tous les aliments qui existent sur la planète. Aujourd'hui, on s'est un peu concentré sur le riz. Gauthier Pajonat, c'est un aliment que vous connaissez bien aussi.
D'abord, c'est un aliment qu'on le rencontre dans la nourriture du monde entier,
ça
Mathieu.
Ça se retrouve partout.
Que l'on produit partout, sur les 5 continents. Voilà. Même s'il y a des continents, j'en pense notamment à l'Inde, on pense à l'Asie, où il est prédominant, dès le petit déjeuner. Mais je veux dire, c'est un plat, le riz l'accompagne toute la vie, depuis l'entrée au plat de résistance, au dessert, voire à la boisson pour le saké.
Exactement,
le japonais. Voilà, qui peut être raffiné, on en parlera tout à l'heure.
On va mettre à profit votre expérience de grand voyageur.
Voilà, et on est très content aujourd'hui d'accueillir Carmen. Oui. Carmen, elle est fière de ses racines siciliennes, c'est le cas. Hein.
Oui, je suis d'origine sicilienne.
Alors, avant de revenir à la Sicile, on va déjà expliquer que Carmen, vous êtes une de nos anciennes cordons bleus.
Oui.
Et vous donniez des recettes à France Bleu, au CER, depuis le début.
Depuis le début,
l'arrivée de la radio.
Pratiquement, oui.
Et alors, ce matin, vous êtes venu quand même avec un drôle d'objet, Carmen. Un truc un peu, comme on dirait, Mathieu.
Un truc forme, à Mathieu, presque.
Une forme un peu phallique, je sais pas.
Oui, si vous voulez, on peut le définir comme ça.
C'est l'arancinotto. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, Carmen?
Alors, l'arancinotto, c'est un petit appareil en plastique qui permet de faire la spécialité sicilienne qui s'appelle les arancini. Ce sont des boules de riz. Fait comme un risotto, froid, d'accord, avec du parmesan, bien goûteux. Et puis justement avec cet appareil, on fait un trou au milieu, on met une sauce à base de viande, on appelle ça un ragoût, avec des petits pois. Et puis après on recouvre avec du riz, on fait une boule. Cet objet-là, il est plutôt conique.
Mm-hmm. Ça, on l'avait remarqué.
Voilà. Et puis dans une pâte à frire... Et puis dans la chapelure et à la friture, et c'est vraiment la spécialité de la Sicile.
Et c'est un entremets, c'est un plat en lui-même.
Bonjour l'entrée.
C'est une entrée, si vous voulez. Ça, en Italie, c'est un anca.
Oui.
Voilà, c'est un anca à n'importe quelle heure.
Moi, ça me ferait pas peur à cette heure-ci. Hein.
Non, effectivement, le riz,
la façon dont vous nous l'évoquez, ça donne envie. Hein.
Effectivement, ça donne envie. On découvrira donc le riz dans tous ses aspects possibles, et les riz aussi, parce qu'il y en a...
Oui, et puis un petit tour du monde de quelques mets à base de riz, forcément.
Forcément. On en profitera encore une dernière fois dans J'ai testé pour vous le chocolat, du riz au chocolat, je sais pas si ça se fait...
Bah, il y avait du chocolat au riz soufflé.
Exactement.
Avec le riz soufflé.
Le crunch.
Oui, exactement. Le crunch. Bravo.
Le souffle dans les oreilles, effectivement. Et bien là, on sera dans le chocolat pur et dur, puisque je suis allé voir Olivier Vidal.
Meilleur ouvrier de France.
Exactement. Un vrai professionnel du chocolat.
Mon petit doigt me dit qu'il viendrait peut-être dans le nord du département.
C'est possible.
Voilà,
c'est
j'ai
possible.
Entendu dire du côté de Sens.
Voilà. Il a pas mal de choses à gérer, notamment aller au Japon, puisque c'est là-bas qu'il fait pas mal de ventes de son chocolat. Donc il fait beaucoup de voyages et on découvrira aujourd'hui, pas forcément le chocolat, mais un autre produit qu'il affectionne particulièrement. Je vous laisserai découvrir ce que c'est.
Avec plaisir.
Parce que vous en avez une petite idée. Vous restez bien avec nous. Et si vous voulez discuter avec nous de la cuisine, du riz, de comment vous le faites, de...
Demandez un conseil à Carmen, profitez-en.
Pourquoi pas quelques conseils aussi sur la cuisine sicilienne, italienne, pour quelque chose de plus large. Vous n'hésitez surtout pas. La Vie en Bleu qui continue jusqu'à 11h, 03 86 52 23 23. Et pour continuer de parler du riz, je suis accompagné de Gauthier Pajona et de Carmen qui est avec nous. Carmen qui était notre cordon bleu, qui est toujours un cordon bleu mais à la maison maintenant et qui vient nous voir pour discuter du riz. Alors, on va démarrer ce tour d'horizon par un tour du monde, Gauthier.
On va commencer par un tour du monde, Mathieu, parce que les grands pays du riz, je pense d'abord à l'Inde.
Oui.
L'Inde, on peut dire que le riz, c'est une religion. Voilà, c'est incroyable. On pense au Japon, où le riz est présent dès le petit déjeuner.
Exactement.
Où on le retrouve dans la plupart des repas.
C'est l'accompagnement à chaque fois qu'on a pour tous les repas qu'on fait.
Vous le savez, vous qui parlez un peu le japonais.
Exactement.
Voilà. Ils l'ont d'ailleurs, comme pour nous le raisin, le saké à base d'alcool de riz, selon que le polissage du grain et tout ça, il y a des sakés de grande tenue. La France, bien sûr, on pense à la Camargue, la Chine, aussi l'Afrique, le Sénégal, Madagascar, aux États-Unis, la Louisiane, et bien sûr l'Italie.
Et
oui, parce que Carmen, vous nous disiez, vous êtes de Sicile. Bon, Sicile, c'est pas une région où on cuisine énormément le riz, ou en tout cas on le cultive. Par contre, en Italie, notamment dans le nord de l'Italie, c'est un produit qu'on retrouve beaucoup.
Dans le nord et la Lombardie. Là-bas, le risotto, oui, c'est une religion aussi.
Voilà, avec les riz arboriaux.
Arborio et carnaroli.
Voilà, ce sont les riz risotto. Alors, quelques plats un peu dans le monde entier qui sont avec le riz. En France, j'ai eu envie de vous prendre la poule au riz.
Ah oui, bah ça c'est.
Voilà, parce que je trouve que c'est un plat emblématique. Alors, la poule au riz, je trouve que ça sera, elle sera peut-être meilleure, votre poule au riz, si vous commencez par une poule au pot. C'est-à-dire que vous allez cuire dans un bouillon, et avec ce bouillon, vous allez vous en servir pour faire le riz, et puis après, vous allez faire une petite liaison crème fraîche et jaune d'œuf, mm-hmm. avec quelques champignons. Voilà, ça va être formidable. Ça, c'est vraiment un joli plat. Bah, l'Italie, Carmen vient de l'évoquer, le risotto. Mais avec du vrai riz à risotto, c'est du travail, faut le faire.
Faut le laisser
on va faire venir les oignons, on va mettre le riz, on va le laisser nacrer, un petit peu de vin blanc, un joli bouillon, un vrai bouillon qu'on va faire soi-même. Hein. En Espagne, bah, c'est olé.
La paella.
Ben oui, celle-là, elle est obligatoire, avec du vrai safran. Nous arrivons en Inde. Alors, l'Inde, il y a ces petits fours, ça s'appelle un tandoori. On va faire, par exemple, un poulet tandoori mm-hmm. avec ce riz basmati qui va être assaisonné. Relevé. Il aura été assaisonné notamment avec des clous de girofle, avec un peu de cardamone. Il y a une, avec tous ces petits légumes qui vont vous arriver autour, il y a une véritable religion, car dans tous les légumes qui vont vous arriver, c'est le riz qui va être la vedette. En Chine, on pense au riz cantonais. Mm-hmm. En Thaïlande, on va vous faire un petit...
Accompagné de petits légumes, parfois petits légumes. D'un peu de lardon aussi.
En Thaïlande, bah, un joli curry de canard au lait de coco. Ça va être dans une coque mm-hmm. une coque de noix de coco. Ils utilisent, voilà, ils font un curry et ils ajoutent le lait de coco. C'est délicieux, on vous le sert avec du riz. Un joli riz blanc. Le voisin vietnamien pour les rouleaux de printemps, avec la pâte des rouleaux qui se fait avec de la farine de riz. Bah, au Japon, alors, un mot sur les sushis, parce que les sushis, c'est un grand produit. Chez nous, on voit dans les trucs, là, voilà, c'est tellement galvaudé que je prépare, voilà.
Bah, c'est triste. Que, effectivement, chez eux, c'est artistique.
C'est une religion, voilà. Le sushi. Voilà.
On passe un temps fou à laver le riz pour qu'il soit vraiment propre et qu'en plus, on puisse faire un riz collant parfait.
Vous savez que dans certaines entreprises, d'ailleurs, au Japon, vous avez une bouilloire de thé vert et à côté, il y a une bouilloire de riz.
Exactement.
Voilà. Pour les petits
encas de la journée. Un cuiseur de riz.
Voilà. On va aller en Afrique, Sénégal, Mali. Alors, un poulet yassa, c'est un poulet qui avait un peu des oignons confits au citron vert qu'on va vous servir avec du riz. Et n'oublions pas, dans le nord de l'Amérique, la cuisine cajun de la Louisiane. Le riz est un peu relevé. C'est le jambalaya qui a un petit parfum un petit peu créole. Voilà.
On a un bon petit tour du monde.
Là. Ah oui, et on l'évoquera tout à l'heure quand même aussi les desserts à base de riz en France. Le riz au lait, voilà, le gâteau de riz et la tergoule, une spécialité normande qui se fait tout seul. Faut juste être patient parce que ça cuit pendant 5 heures.
Faut s'y prendre un peu. Mais la poule au pot, enfin en tout cas la poule au riz, ça prend du temps aussi. Hein.
Mais elle cuit toute seule.
Mais voilà, elle cuit toute seule. Elle se prépare facilement, mais je veux dire, il faut
prévoir. On épluche deux poireaux, une carotte, un navet, un oignon.
Il faut simplement un bon bouillon.
Voilà,
pour faire
exactement.
La
poule au pot. Parce que c'est ça qui fait la différence pour faire votre riz. Et alors, madame, monsieur, aujourd'hui, vous l'aviez rappelé, Mathieu, nous sommes...
Le vendredi 13.
Voilà. Alors, ils ont été validés ce matin chez la charmante dépositaire de Gron, Anne-Laure Pasquet. Et je suis heureux de vous offrir... Bah, le bulletin gagnant.
Ah bah, à Carmen ou à moi.
Voilà.
Peut-être même aux deux, je ne sais pas.
Voilà, c'est ça. On en achètera du riz si on gagne.
Je vous souhaite bonne chance.
Oui. On fera un tour du monde.
Ah, exactement, de tous les pays qu'a donné.
On viendra manger chez vous, Carmen. Hein, parce que moi, votre crumble de maquereau, je m'en souviens encore. Hein.
Ah, ne partons pas dans d'autres produits. On se garde cette recette pour plus tard. Ah, mais on va parler de riz et de recettes de riz. Les entrées, les plats principaux, les desserts. Vous avez parlé des riolets notamment. Vous restez bien avec nous et vous nous appelez si vous voulez en discuter en notre compagnie. Nous racontez, vous, quelle recette de riz vous a marqué, vous marque au quotidien, que vous aimez faire. Quel type de riz vous aimez aussi cuisiner? Parce qu'il y en a quand même beaucoup de différents. On en a abordé quelques-uns. Le riz basmati, c'est un peu le...
Oui, les Italiens avec l'arborio et le carnaroli.
Exactement, pour le risotto.
Vous avez les riz longs, le riz brun.
Exactement.
Les riz sauvages.
Les riz sauvages. Le riz blanc, tout simplement.
Alors, en revanche,
le riz rond.
Il y a un truc qui n'est pas bon, c'est les riz en sachet.
Ah, ça y est.
Voilà. Non,
faut
mais c'est vrai, Carmen, c'est vrai. Comme la purée en sachet, c'est immonde. Le riz, il faut le respecter. Il faut respecter le temps de sa cuisson. Et ces riz en sachet qu'on met, je sais pas quoi, 1 minute 30 au micro-ondes et tout ça, eh ben, c'est vraiment pas bon.
Voilà. On rappelle ce que vous avez dit, il faut prendre le temps.
Voilà.
Pour le riz.
Surtout que pendant qu'il cuit le riz, faites autre chose.
Voilà.
On va faire une petite compote. Ouais. Voilà.
Pourquoi pas. C'est bien ça. On continue d'en discuter dans La Vie en Bleu jusqu'à 11h. Le riz est à l'honneur sur France Bleu Auxerre.
France Bleu Auxerre. France
Bleu. Dans La Vie en Bleu, en compagnie de Gauthier Pagenat et de Carmen Cordon Bleu. Ce sera votre titre, Carmen, dorénavant.
Ça lui va bien.
C'est pas mal. Oui, c'est assez proche de la réalité de toute façon. Donc
Une Cordon Bleu qui s'est un peu expatriée parce que à un moment, cette émission en studio, vous l'avez faite en Sicile.
Non, je l'ai faite dans les Pouilles.
Dans les Pouilles.
Pour rappel, vous êtes italienne, Carmen.
Oui, je suis italienne.
Et donc, en France, vous donnez des recettes italiennes. Oui. Et puis, quand vous allez en Italie,
Je donnais des recettes françaises.
Et voilà,
surtout
ça.
La quiche Lorraine.
Donc, à nos collègues qui faisaient de la radio en Italie.
Voilà.
Comment s'appelait cette radio?
C'était Radio Lecce.
Ah, comme du lait en espagnol, leche, comme le lait.
Leche, c'est une belle, c'est une ville, c'est une ville, très, oui. très belle ville.
D'accord. Vraiment.
La quiche Lorraine, c'était la recette qui vous avait demandé en
particulier. C'est-à-dire, c'était le tout début de la quiche Lorraine qu'on commence à connaître là-bas en Italie. Donc voilà, tout le monde réclamait la quiche Lorraine, la quiche Lorraine. Donc,
la quiche Lorraine, oui, mais de Carmen.
Exactement. Voilà. On est dans la rime. Là, on revient sur le riz, Carmen, pour démarrer un bon repas avec du riz. En plus, il fait beau aujourd'hui.
Ah oui, on va manger dehors demain et dimanche.
Pourquoi pas? Vous nous proposeriez une salade?
Une salade de riz.
Alors, comment vous la faites, cette salade de riz?
Alors, bien sûr, le riz, déjà, pas du riz qui colle.
Ah oui, voilà. Du riz long.
Bien, moi, je le rince hein, pour qu'il soit pas collant du tout. Mm-hmm. Bien égoutté. Et puis après, je mets du thon, je mets des tomates, je mets des olives noires. Cet été, j'ai mis des haricots verts de mon jardin, un petit peu de haricots verts de mon jardin dans ma salade de riz.
Que Philippe a semé, sûrement.
Et puis après, la sauce, moi, alors, c'est huile d'olive et jus de citron.
Pas du tout de vinaigre.
Non. Moi, je l'aime comme ça. Mon ami, lui, rajoute du vinaigre dans son assiette, mais moi, je l'aime bien avec le jus de citron.
Et alors, puisque vous parlez du thon, vous, le thon, vous mettez du thon au naturel ou du thon à l'huile?
Alors, moi, le thon, je le prépare d'avance. Le thon naturel que j'assaisonne avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre.
Moi, je trouve que le thon naturel... Écoutez, j'ai découvert ça cette année. J'ai fait un peu des tests, vous voyez, comme ça, pour... Et de thon germont, donc du thon blanc de qualité, eh ben celui à l'huile, je le trouvais pâteux. Alors que le thon albacore au naturel, je le trouvais charnu, ayant de la marche et beaucoup plus goûteux que les thons à l'huile. Voilà.
Il faut le préparer d'avance parce que sinon il est un peu sec dans la salade de riz. Si on ne prépare pas d'avance.
Donc vous l'assaisonnez un petit peu.
Avant.
Vous le faites un peu mariner.
Je le fais mariner un petit peu.
Voilà. Je reviens sur la cuisson du riz. Vous le travaillez comment à ce moment-là? Est-ce que vous le cuisez à la créole?
Non. Pour la salade de riz, je le cuis à l'eau. Oui, c'est à la créole en fait.
D'accord.
Voilà.
Exactement. Pour tester. On parlera des différentes techniques de cuisson du riz.
Oui, parce qu'elles sont innombrables.
Eh ben, il y en a énormément. Alors, on ne les donnera pas toutes de fait, mais testez chez vous. Pourquoi pas cette petite salade de riz dont nous a parlé Carmen.
Simple et facile à faire. Hein.
Et le jus de citron.
Les olives noires, je les ai dit.
Évidemment. Et alors, une chose en plus que vous avez parlé de tomates, ce sont parmi, là, il y a les dernières tomates sur les marchés. Ça va se terminer sûrement cette semaine. Profitez-en, madame, monsieur, puisqu'on va pouvoir déjeuner dehors en fin de semaine.
Et pourquoi pas, à la fin de votre repas de demain, un peu de chocolat. On en parle dans quelques instants. On en parle avec Olivier Vidal, j'ai testé pour vous, je suis allé découvrir son métier de chocolatier et aussi de pâtissier.
Bah oui, parce que pour être chocolatier, il faut d'abord avoir un CAP de pâtissier.
Et on va parler de macarons.
Oh, on va se régaler, Mathieu.
C'est bon.
France Bleu Auxerre. France
Bleu. Nous parlons du riz dans la vie en bleu, mais nous allons bifurquer un petit peu pour parler chocolat. J'ai testé pour vous, c'est le rendez-vous qui vous fait découvrir des métiers, des professions, des hobbies, des sports et encore plein d'autres choses. Toute cette semaine, j'ai été chez Olivier Vidal, chocolatier, meilleur ouvrier de France.
Une belle adresse.
On l'a dit, une très belle adresse. Chocolatier, mais aussi pâtissier. Et c'est l'occasion d'aborder l'une de ses spécialités culinaires, les macarons. Il y a un produit dont on n'a pas parlé encore, et en général, quand ça vient de chez vous, tout le monde en parle, c'est les macarons.
Oui. Vous êtes bien renseigné.
Ah, j'en ai déjà mangé. Tout simplement. J'ai pas cherché bien loin. Et ça se fait pas ici, j'imagine, plus au-dessus,
Oui, c'est au-dessus où il y avait les deux batteurs. On mélange dans
l'espace
les batteurs.
L'espace pâtisserie, quoi.
Voilà. Et à côté, il y a une machine justement qui dresse les macarons sur plaque, en fait.
Et alors là, en termes de goût, parce que chez vous, on trouve des macarons avec des goûts incroyables. Comment vous les créez, quelles idées vous viennent?
Après mes macarons, on va dire il y a une dizaine de sortes, c'est les goûts standards.
Oui.
Enfin, entre standards classiques, ça va être vanille, chocolat, framboise. Et après toutes les saisons on en change deux ou trois.
Et oui, c'est ceux-là qui sont un peu plus originaux.
Oui, voilà, oui. Parce que l'été on en fait un au morito qui marche très très bien.
Oui, par exemple.
Celui-là.
C'est devenu un classique finalement.
C'est devenu un classique pour l'été maintenant.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est vrai que il a que 2 ans, hein, je l'ai sorti l'année dernière. Et là, on l'a refait cette année.
Et là, est-ce qu'il y a des idées qui se préparent ou il y a des choses que vous voudriez explorer?
Non, là, on a sorti... Ben, le Mojito, il va se terminer, je pense, fin de semaine ou la semaine prochaine.
Mm-hmm. Donc, faut en profiter rapidement.
Voilà. Et puis après, on va enchaîner sur un pomme façon tatin et puis noisette, en fait, de produits plus d'automne. Puis après, quand arrive Noël, on part plus sur marron, des produits...
de saison.
Ouais, hop, voilà.
Ah, voilà la guitare.
Voici la fameuse guitare.
Ah. Alors, je voudrais un morceau d'Oasis. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, fallait que je la fasse. Hein.
Ça marche pas tout à fait.
On appelle guitare, c'est parce qu'en fait, on a les
cordes.
On a les cordes, en fait. C'est ni plus ni moins que ça.
Et donc là, découpage d'une plaque de...
De pâte d'amande.
Ah, bah, faire de la guitare. J'ai jamais été un grand musicien, mais je veux bien essayer, effectivement. Est-ce qu'il y a des projets particuliers, là, pour des choses, des scoops que vous voudriez nous donner, ou des choses que vous préparez, là,
non.
Qui arrivent,
où
on est sur...
J'ai rien sous le coude.
J'ai rien du tout. Je ne fais plus rien, voilà, j'arrête.
J'ai rien sous le coude, à part que je partirai bien 15 jours au Bahamas, là.
Ah, bah, finalement, ouais, 2 semaines, pas 3, parce que 3, vous embêteriez, c'est ça.
Mais là, comme c'est bientôt Noël, je peux pas, là.
Ouais,
donc,
là, c'est...
C'est un peu court.
Ah, c'est... Non, on commence déjà à anticiper Noël.
Ah oui. Ouais, mais Noël, c'est là on est octobre-novembre et décembre c'est déjà parti. Donc.
Donc, vous êtes déjà dans le.
Ouais, on est en train déjà de réfléchir un petit peu niveau des petits sujets de Noël et tout ce qu'on va faire. On est déjà dedans. Là. On a encore pas lancé les essais, mais ça va arriver.
Donc alors, faut que je joue de la guitare. Donc j'ai juste à le ramener. Hop, et j'appuie là.
Voilà, impeccable.
Ah bah, nickel. Ah oui, et parfait. Après je remonte pas tout de suite.
Non.
Sinon je risque de faire des bêtises.
Faut que j'aille retirer ce qui est dessus avant de remonter.
J'ai pas toujours la bonne logique, vous savez. Bah, je vous ai dit que c'était risqué. Hein.
Ouais, non, ça va. Ça risque pas l'explosion nucléaire non plus. Là.
Oui.
Vous êtes prêts pour Noël là.
Ah bah, je reviens quand vous voulez.
La sympathie d'Olivier Vidal et mon recrutement possible pour aller travailler chez lui à Noël.
Mais j'ai bien l'impression que vous avez pris le virus du chocolat.
Je pense
que
je vais le ralentir, parce que je vais plutôt les manger, moi, les chocolats.
Et... Oui, parce que la guitare, ça y est, vous avez laissé
la guitare,
les cordes.
Bon, après, c'est pas hyper compliqué à utiliser. Hein. On descend, on enlève, on remonte. Ouais, j'ai tout compris.
Un métier plein de noblesse,
exactement.
Le métier de chocolatier.
Et qu'il fait avec amour, et surtout qu'il fait avec une maîtrise peu égalée, en tout cas. Direction la place Charles Surugue à Auxerre, Olivier Vidal, chocolatier, meilleur ouvrier de France, que l'on remercie de son accueil. La semaine prochaine dont j'ai testé pour vous, on va à la poste.
C'est vrai ?
Eh oui.
Mais alors, quoi ? Un guichetier ?
Non, on va faire la tournée, on va faire le tri. On va faire tout ça.
Vous, avec le facteur?
Bien sûr, avec la factrice. C'est Fabienne
factrice.
Qui a gentiment accepté que je l'accompagne.
Ça, le facteur-factrice, je trouve que c'est un des derniers liens sociaux de nos
exactement.
Rues.
Et bien on en parlera en profondeur, vous voyez, c'est l'un des vrais
et
axes de l'emportage.
Que je suis content quand ils distribuent du vrai courrier, et je pense que ça leur fait plaisir aussi.
Exactement.
Et qu'ils viennent nous voir pour les calendriers, on les attend.
Parfait, le rendez-vous est pris. Et on continue de parler du riz. On a parlé de chocolat, ce sera l'occasion de parler de dessert dans quelques minutes. Avec vous Carmen et avec vous Gauthier.
Oh bah alors si vous le dites.
France Bleu Auxerre.
France Bleu. Nous ne sommes pas yesterday, nous sommes today.
Ben oui, et alors Maud, notre technicienne, va nous rappeler un basique de la tomate farcie.
Alors un basique en tout cas, plutôt une variante. Avec vous Carmen, on se permet d'en discuter puisque c'est encore un riz dont on a parlé, le riz pour risotto, que la belle sœur de Maud a utilisé dans les tomates farcies.
Oui, on peut en mettre,
du riz,
ça absorbe l'eau. Que rendent les tomates.
On le met au fond du plat.
Oui, au fond du plat.
Les trognons de tomates
oui,
que l'on
voilà.
coupe.
Et c'est beaucoup plus onctueux, nous disait-elle.
C'est beaucoup plus onctueux, puis c'est beaucoup plus goûteux si on a de belles tomates du jardin.
Mmh, bien sûr. C'est
alors celles-là, elles reviendront l'année prochaine.
Voilà.
On les attend avec impatience.
Gardez l'idée dans un coin de la tête et comme ça, vous pourrez réaliser ces tomates. Mais... On quitte les tomates pour aller vers le dessert. Johan Carpedron qui rentre dans le studio, vous,
voilà. Alors Johan, voilà, Carmen espérait vous voir aujourd'hui, hein.
Ah, allez, la bise en direct, voilà. Un grand moment qui vient de se passer dans la vie en bleu. Et nous, on parle de dessert. Bon, si, vous, Johan, si vous voulez, hein. Comme ça, on va discuter.
Rapidement, je veux pas perturber.
Vous aimez le gâteau de riz,
dynamique.
Vous, Johan?
Absolument.
Bah, ça tombe bien, on
je
va l'évoquer.
Je suis né pour
là.
Le gâteau de riz.
C'est vrai.
Carmen, votre dessert à base de riz, donc, le gâteau de riz, c'est...
Le gâteau de riz. Alors, j'en fais un simple pour celles qui sont au régime.
Ouais,
puis un autre un peu plus consistant, avec du caramel. et puis de la crème, des œufs, du sucre à la fin, voilà. Et puis on met au four, on fait caraméliser, on fait finir de cuire le riz. Mm-hmm. Et puis après, une fois que c'est tiède, on renverse.
Tout bêtement.
Tout bêtement.
On laisse tomber le régime, on mange rien
ce soir. Mais ce qu'on explique quand même, Carmen, pour faire un bon gâteau de riz ou un bon riz au lait.
Faut du lait entier.
Du lait entier ou du lait cru, madame, voilà, monsieur. On en trouve dans Lyon, on en trouve chez nos crémiers, dans les rayons des grandes surfaces aussi.
Il faut mettre
du bon riz.
Moi, je mets du lait de soja, comme ça, j'ai pas besoin de me mettre au régime.
D'accord, mais du lait de soja.
Oui.
D'accord. C'est peut-être pas pareil, alors.
Mais je préfère en parler face à vous et être à l'autre bout de la table. Parce que le temps que vous bondissiez pour m'attraper, j'ai le temps de me sauver.
Vous êtes plus rapide.
Je suis limite convalescent du genou. Donc profitez-en. Profitez de cet avantage.
Il a pris un verre de lait cru, donc il est un peu moins réactif.
C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut déjà du bon lait. Alors comment vous faites ce bon gâteau de riz alors?
Alors, je blanchis d'abord un petit peu mon riz. Voilà. Mm-hmm. Ça enlève un petit peu l'amidon. Je le blanchis, je le fais refroidir, je fais bouillir du lait cru avec une gousse de vanille
pour lui donner une saveur.
Pas de sucre. Je fais cuire mon riz à peu près selon. Avec la deuxième méthode, avec quand je le fais recuire au four, je le fais cuire moins. Je fais cuire 20 minutes
pour qu'il soit pas trop
trop cuit.
Oui, c'est ça. Sinon après il devient sec.
Voilà. Sinon il devient sec. À part, je fais gonfler des raisins dans du rhum et puis je prépare. Dans un bol, je mélange des œufs, du sucre, de la crème, mes raisins et je verse mon riz qui a cuit dans le lait. Je mets dans un moule caramélisé que je fais caraméliser avant. Je fais recuire au four à couvert.
Ah, vous mettez un couvercle sur votre moule?
Je mets du papier d'alu.
Du papier d'alu, d'accord.
Voilà. Ouais. Comme ça, si vous voulez, la cuisson du riz, elle est homogène.
Ah oui, ça permet d'avoir, de pas avoir...
La même cuisson partout.
Et alors, tout à l'heure, vous m'évoquiez une variante de ce gâteau de riz, mais avec une feuille de laurier.
Voilà, j'ai entendu ça dans les émissions de Joël Robuchon.
Et bon appétit, bien sûr.
Il a un peu d'expérience.
Voilà. C'est vrai. Donc, il y avait un cuisinier qui avait cuit son riz au lait, avec des feuilles de laurier au lieu de la vanille.
D'accord. Ça doit donner une...
Ça change. Faut pas mettre beaucoup de laurier.
Il faut savoir doser le laurier.
Une feuille de laurier pour un litre de lait.
Ah oui.
Mais ça change. Et lui, pareil, le sucre, il le mettait qu'à la fin.
Pour en rajouter un petit peu, mais ce n'est pas le plus important.
Voilà. Ça doit être bon. Alors, dans les, c'est vrai
que
le gâteau de riz, c'est un dessert emblématique. On pense aussi au riz au lait, sa variante un peu plus simple. Et vous avez aussi ce dessert normand qui s'appelle
La torgoule, ça se fait tout simplement.
Vous mettez du riz rond, parce que c'est le riz rond, pour faire les desserts à base de riz. Vous mettez votre lait entier, votre gousse de vanille, votre sucre, un peu de cannelle. Et là, votre four à 120 degrés, pendant 5 heures, il faut que tout le riz ait absorbé le lait. Donc, si vous voulez le manger à midi, bah oui, il faut le mettre.
Faut s'y mettre dès le réveil.
À 8 heures, quoi, voilà. Mais ça se cuit tout seul, une torgoule.
Ça fait une croûte noire.
Une croûte, voilà. Et c'est un des plus jolis symboles des desserts normands. La torgoule.
Et des desserts au riz.
Et des desserts au riz, absolument.
Voilà. Ce sera un peu des deux. On continue de parler du riz dans quelques minutes. Restez bien avec nous parce que ce sera l'occasion de jouer avec nous, de jouer pour un panier gourmand de France Bleu. C'est l'occasion de vous faire plaisir avec des produits bien de chez nous. On joue avec une chanson. On ne vous en dit pas plus, mais forcément, on sera en rapport avec le riz.
Il y a des chances.
Je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous restez bien là, vous jouez avec nous. Je vous donne déjà le numéro 03 86 52 23 23. Carmen, vous restez encore un petit peu avec nous?
Oui, je suis en très bonne compagnie.
Ah, je suis content de vous l'entendre dire. Exactement. Gauthier Pajona est à mes côtés. Le riz, la cuisine du riz et puis tout ce que l'on peut faire avec, nous vous en parlons jusqu'à 11h dans La Vie en Bleu sur France Bleu Auxerre.
9h, 11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Auxerre.
Et dans La Vie en Bleu, nous jouons avec vous un panier gourmand France Bleu Auxerre avec du bœuf bourguignon, de la caillera tafia, de terrine aux escargots.
Il n'y a même pas un petit peu de riz?
Bah, il n'y en a pas là. Bon, quoique si, parce que je crois qu'il y a dans le coco chablis un peu de riz.
Ah, il y a un petit peu de riz, d'accord.
Peut-être, oui, vous allez pouvoir en profiter. Vous allez de toute façon pouvoir vous faire plaisir en découvrant qui est donc l'interprète de cette chanson sur le riz.
C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé.
Je crois que j'ai reconnu, mais je suis pas sûr.
Vous avez le choix entre Pierre Perret et Antoine. Qui est donc l'interprète de cette chanson. Ah, voilà. Il y en a un qui est... Le chanteur n'est pas un barbu.
Voilà. Oui, il aime bien la pâtisserie.
Et oui, c'est
quand j'étais petit garçon, je le croisais dans une pâtisserie de Nangis. chez Monsieur Ribérol, voilà.
Si vous avez, vous avez quand même beaucoup d'indices dont vous pouvez profiter, appelez-nous 03 86 52 23 23. Exactement. Ah bah, elle vous aide.
On va la tout est dit.
Oui, c'est bon. Allez, on vous retrouve dans quelques minutes pour gagner ce panier gourmand de France Bleu Auxerre avec des spécialités de notre département. Puis pour discuter un peu avec nous, pourquoi pas de riz, qui sait.
France Bleu Auxerre.
Marie Vernet qui est avec nous pour le bon plan. On va le faire dans quelques instants, mais d'abord on accueille Philippe qui nous appelle dans Sillefranc. Bonjour Philippe.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour
Philippe. Bonjour, Philippe. Vous avez du beau temps aussi en Sillefranc?
Oh, attends, magnifique. J'ai la terrasse qui est ouverte là.
Ah, bon, formidable. Vous pourrez tester, pourquoi pas, la salade que nous a conseillé Carmen tout à l'heure.
Ah ouais, c'est magnifique. Je connaissais déjà un peu la recette.
Ah.
Ouais, parce que moi, je suis un cordon bleu.
Ah mais oui, Philippe aussi. Bon, voilà,
vous allez vous régaler
que
avec
des professionnels
de, riz, hein.
De la cuisine.
D'ailleurs, je voulais donner un petit truc que j'avais essayé, moi, au niveau en dessert, de
oui.
La poudrie. C'est faire infuser avec mon lait de l'estragon.
Ah, on est encore sur un autre...
Ah, de l'estragon.
Sur notre plante aromatique.
Tout à l'heure.
Et c'est extraordinaire, ça donne un petit goût légèrement anisé avec tout le restant des mélanges.
Philippe, puisqu'on est avec vous et qu'on parle de ces bons produits, on va essayer de vous en offrir avec la question que nous avons posée il y a quelques instants. Une chanson sur le riz, on la réécoute.
Là, c'est Pierrot
le Magnifique. C'est le chant du riz pilé.
Exactement, Pierre Perret ou Antoine, redites-moi Philippe.
C'est le chant du riz pilé.
On va dire qu'on a entendu Pierre Perret. Philippe.
Oui. Vous
remportez ce panier gourmand France Bleu Auxerre avec bœuf bourguignon, caillou ratafia, terrinos escargots, tout ce qu'il faut pour vraiment vous faire plaisir. Coq au chablis également.
Ah oui, c'est excellent. Oui, c'est excellent.
Ah, vous allez vous régaler.
Très bon produit, très bon produit.
Philippe, vous ne quittez pas, on vous repasse Kelly à l'accueil, d'accord?
Deux petites secondes. Je voulais dire à Gauthier Pagenas que j'avais fini deuxième au concours des cuisiniers de la foire d'Auxerre.
Ah,
à la foire de Sens.
D'Auxerre.
Non, Auxerre.
À la foire d'Auxerre, donc vous avez fait des démonstrations à la foire d'Auxerre.
Voilà.
Ah bah bravo.
Bravo
alors,
Philippe.
Il faudra venir aussi à la foire de Sens, hein, du 29 avril au 3 mai alors.
J'aimerais la faire, le prochain coup.
À bientôt Philippe.
Allez, à bientôt et j'embrasse toute l'équipe. Hein.
Bah oui, mais nous aussi on vous salue et on vous dit à bientôt. On discute avec nos anciens cordons bleus, avec les nouveaux également. Vous n'hésitez pas à la vie en bleu chaque jour, du lundi au vendredi. On remercie Carmen d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Carmen.
Merci Carmen.
Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir reçu.
Mais ce fut un plaisir, on a voyagé avec vous et avec vous Gauthier Pajona également.
Ah oui, on a fait le tour
du monde
avec des ailes de riz.
Exact.
Voilà.
C'est original, mais c'est possible. Dans quelques instants, c'est Marie Vernet qui vous emmène à la découverte du bon plan du jour.
France Bleu Auxerre.
France Bleu.
Le bon plan du jour, c'est en votre compagnie, Marie Vernet. Bonjour.
On passe
notre temps à nous croiser ce matin. C'est un vendredi 13 aujourd'hui et un bon plan pour tous ceux qui ont un balai, un chapeau pointu et un chat noir que vous nous présentez.
Oui, un bon plan surtout pour ceux qui ont envie de faire la fête en fait.
Très bien.
De s'amuser, de participer à un bel événement, de s'investir dans l'organisation d'un Halloween auxerrois. Je vous explique. Le 28 octobre prochain, citrouilles, araignées, squelettes et sorcières vont envahir le centre-ville d'Auxerre. Ambiance Halloween dans les rues pavées de la ville, tout cela est organisé par les commerçants du centre-ville. Problème, l'équipe des sorcières n'est pas au complet.
Oh là là.
Ah là là. Alors, en ce vendredi 13, jour symbolique, jour de superstition, nous lançons un appel. Vous, qui êtes disponible le 28 octobre prochain, sautez sur votre balai et rejoignez l'équipe. Votre mission, distribuer des bonbons. Vous serez en plus des sorciers et des sorcières gentils. Vous serez mobilisés de 14h30 à 17h30 le samedi 28 octobre, donc pour rendre cet après-midi encore plus belle.
Et combien de sorcières manquent à l'appel?
3. Les commerçants de la ville recherchent encore 3 sorcières. Pas besoin. Ou sorcier, mais je sens bien que messieurs vous êtes.
Oui, bah attendez.
Pas besoin de verrues sur le bout du nez pour être recruté, donc tous les deux vous pouvez postuler.
Bon, on avait la verrue si besoin.
Et si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer, eh bien rendez-vous sur la page Facebook des commerçants de la ville d'Auxerre pour postuler. Alors c'est une action gratuite, donc pas de rémunération, mais du plaisir partagé. Et puis surtout, vous le faites pour des enfants, hein. Ils vont être émerveillés, donc ça vaut tout l'or du monde.
Un bon plan Halloween, puisque là, la période, on est en plein dedans. Pour ceux qui aiment cette fête et qui ont envie de s'investir, sorciers et sorcières, enfourchez vos balais, produits ménage aussi, pourquoi pas. Vous êtes pas très loin déjà. Et hop, au centre-ville d'Auxerre, le samedi 28 octobre, 14h30, 17h30, pour distribuer des bonbons aux petits-enfants. Toutes les infos donc sont sur la page Facebook des commerçants de la ville. Marie, vous allez postuler, vous?
Ah oui. En plus, moi, j'ai la verrue, donc...
Là.
Ça vous laisse de marbre, Gauthier.
Bah oui, parce que je la voyais pas.
Mais c'est parce qu'il y a du fond de teint.
Ah, d'accord, Marie.
Un kilo. C'est ça qui est beau. Bon, je vais pas vous attaquer là-dessus. On a tous nos petits secrets. Marie Verdet, merci beaucoup. On vous retrouve demain.
C'est moi. Bah oui, demain dès 6h.
De bonne heure et de bonne humeur. Vous réveillez tout le monde avec le sourire.
6h, tout le monde. Hein, je fais l'appel.
Par contre, attention, votre balai est garé en double fil.
Oui, je vais aller l'enlever.
Et dimanche, je vais être la graphe maths. Ça commence à 7h.
Hein. Oui, vous avez vu, grand luxe.
Il sait tout. Gauthier Pajolin, vous retrouve lundi.
Bah oui, alors lundi, une spéciale coquille Saint-Jacques. Voilà, nous recevons notamment Jean-Michel Lorrain.
C'est bien, vous faites ça quand je suis pas là.
Le grand chef de la Côte Saint-Jacques.
Merci.
Mais vous aimez pas ça, vous aimez pas ça les coquilles Saint-Jacques?
Bien
vous
sûr,
le riz, vous m'avez dit.
Bien sûr, oui, complètement. On va en discuter tous les deux. À bientôt, Gauthier. La vie en bleu qui revient dès lundi. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site France Bleu Auxerre.